pailletée, c'est de la matière au mauvais endroit. Jusqu'alors, les bains permettant la toilette du corps étaient réservés aux nantis. Mais au début du XXe siècle, les choses changent. Les dermatologues allemands exigent un bain hebdomadaire pour chaque Allemand. Les grandes entreprises lancent des campagnes sanitaires, font construire des bains pour leurs employés et leur fournissent gratuitement du savon et des serviettes. Dans les années 1950, le bain hebdomadaire finit par s'imposer. La classe moyenne prend son bain le samedi, chaque membre de la famille s'immergeant l'un après l'autre dans la même eau. Et dans certains foyers, c'est le père, le travailleur, qui passe en premier. La propreté à cette époque consiste à éliminer les mauvaises odeurs et les traces visibles de saleté. Avec le temps, la notion de propreté est devenue de plus en plus abstraite. Aujourd'hui, il serait impensable pour nous de faire couler un seul bain hebdomadaire pour toute la famille. Nous achetons même des produits pour éliminer ce qui n'est pas visible à l'œil nu. Inutile de jouer au jeu des différences. Avant et après emploi, il n'y en a aucune. Mais nous jugeons néanmoins notre argent bien investi. La presse et la télévision nous parlent de redoutables virus de la grippe, de germes multirésistants ou d'épidémies aux bactéries ECEH, autant de dangers invisibles dont nous voulons nous protéger. En situation de crise, du concombre, certains mangent moins de salade, d'autres cherchent sur Internet douches de désinfection. Chacun cherche à maîtriser ses angoisses à sa façon. Émettre un jugement serait ici un peu trop simpliste. L'important est surtout de comprendre les mécanismes qui y président. L'hygiène fondée sur la peur vise à tout éliminer, tout exterminer. On ne sait pas très bien ce qu'on veut éradiquer, mais on pense en tout cas à quelque chose de méchant, de nuisible. De fait, quand nous faisons le ménage de cette façon, nous éliminons tout, le mauvais comme le bon. Cette conception de la propreté ne peut pas être judicieuse, car plus les standards d'hygiène sont élevés dans un pays, plus il y a d'allergies et de maladies auto-immunes. Il y a 30 ans, une personne sur 10 environ était allergique à quelque chose. Aujourd'hui, c'est une sur 3. Dans le même temps, le nombre d'infections n'a pas diminué de manière significative. Penser intelligemment l'hygiène, c'est autre chose. Les recherches en bactériologie marquent l'avènement d'une nouvelle conception de la propreté, dans laquelle il n'y a que peu de place pour l'extermination systématique des petits peuples qui nous entourent. Plus de 95% des bactéries de ce monde sont inoffensives pour nous. Et nombre d'entre elles sont même nos meilleurs alliés. Les produits ménagers désinfectants n'ont pas lieu d'être dans un foyer normal, sauf si un membre de la famille est malade ou si le chien fait caca sur le tapis du salon. Et si c'est le chien en question qui est malade, alors tous les moyens sont permis. Nettoyeur vapeur, cascade de Javel, mini lance-flammes, on peut bien s'amuser de temps en temps. En revanche, quand il s'agit d'éliminer les empreintes de chaussures qui souillent le sol, de l'eau et une goutte de nettoyant ménager suffisent amplement. Ils permettent d'éliminer jusqu'à 90% des bactéries au sol. Et le petit peuple habitué à nos parquets a ainsi la chance de recoloniser les lieux, tandis que les gêneurs ne sont plus assez nombreux pour se développer. Nettoyer devrait consister à réduire le nombre de bactéries, pas à les éliminer toutes. Même les mauvaises bactéries peuvent être bonnes pour nous, tant que notre corps peut les utiliser pour s'entraîner et garder la forme. Quelques milliers de salmonelles dans l'évier, par exemple, c'est une vraie partie de plaisir pour notre système immunitaire. C'est quand les salmonelles deviennent trop nombreuses que les choses se gâtent. Pour pouvoir se multiplier, les bactéries doivent trouver des conditions idéales. Espace protégé, chaleur, humidité et de quoi faire de temps en temps un bon repas. Pour les contenir, il existe 4 méthodes d'entretien intelligentes. Diluer, sécher, régler le thermostat et nettoyer. Diluer. La technique de la dilution est aussi utilisée en laboratoire. Nous diluons des bactéries dans un liquide que nous administrons à des insectes capables de changer de couleur quand ils sont malades. En faisant varier la concentration, on peut facilement voir à partir de quand certaines bactéries induisent une maladie. Pour certaines, c'est à partir de 1000 par goutte, pour d'autres, il en faut 10 millions. La dilution domestique, elle, consiste par exemple à laver les fruits et les légumes. La plupart des bactéries contenues dans la terre sont ainsi suffisamment diluées pour ne plus nous nuire. En Corée, histoire de les embêter un peu plus, on ajoute aussi quelques gouttes de vinaigre à l'eau. De la même manière, aérer les pièces, c'est aussi diluer pour nettoyer. Côté vaisselle maintenant. Les éponges de cuisine sont chaudes, humides et pleines de délicieuses choses à manger. Le paradis pour n'importe quel microbe qui passerait par là. Si je vous montrais à quoi ressemble une éponge vue au microscope. Les éponges de cuisine sont là pour enlever le plus gros. Ensuite, on rince les couverts et les assiettes à l'eau claire. Même mise en garde pour les torchons toujours humides. En général, ils ont plus pour effet de répartir uniformément les bactéries que de sécher la vaisselle. Les éponges et les torchons doivent être essorés au maximum et avoir la possibilité de sécher, sans quoi ils deviendront le pays de cocagne des bactéries. Sécher. Les bactéries ne peuvent pas se reproduire sur des surfaces sèches, et certaines sont même incapables d'y survivre. Un sol nettoyé à la serpillière est vraiment propre quand il a séché. Même principe pour le déodorant. En asséchant les aisselles, il les rend moins accueillantes pour les bactéries, et les odeurs sont moins fortes. Le séchage, c'est quand même une belle invention. Quand on les a fait sécher correctement, les aliments se conservent plus longtemps et ne moisissent pas. On le voit avec de nombreux produits à base de céréales, comme les pâtes, le muesli, les biscottes, mais aussi avec les fruits, par exemple les raisins, les haricots, les lentilles ou la viande. Régler le thermostat. Une fois par an, la nature fait chuter le thermomètre. D'un point de vue bactériologique, l'hiver est une sorte de grand ménage. Dans notre quotidien aussi, le froid joue un rôle important. Songeons par exemple à la réfrigération des aliments. Le problème, c'est que nos réfrigérateurs sont souvent si pleins que même à basse température, ils font la joie des bactéries. Le mieux est de ne pas dépasser les 5 degrés Celsius. Côté blanchisserie, le principe de dilution est en général amplement suffisant. Pour les torchons humides, la plupart des culottes ou le linge de personnes malades, on peut faire monter les enchères jusqu'à 60 degrés Celsius. En général, les bactéries E. coli ne survivent pas au-delà des 40 degrés Celsius et, à plus de 70 degrés Celsius, on se débarrasse aussi des salmonelles tenaces. Nettoyer. Nettoyer, cela équivaut à détacher des surfaces un film de graisse et de protéines. En même temps, on retire toutes les bactéries qui se sont logées dans ou sous le film, le plus souvent en utilisant de l'eau et en produits nettoyants. Nettoyer, c'est la solution numéro 1 pour toutes les pièces à vivre, la cuisine et la salle de bain. On peut pousser cette procédure à son paroxysme. C'est utile quand on fabrique des médicaments qui atterrissent directement dans les artères des patients, comme des solutions administrées par intraveineuse. Aucune bactérie ne doit avoir la moindre chance de s'infiltrer. Les laboratoires pharmaceutiques utilisaient par exemple de l'iode, qui a le pouvoir de sublimer. La sublimation, c'est quand, sous l'effet de la chaleur, un cristal d'iode solide se transforme en vapeur sans être passé auparavant par l'état liquide. L'iode est donc chauffé jusqu'à ce que la salle tout entière disparaisse dans un brouillard bleu. Jusque-là, on n'est pas très loin du principe de l'aspirateur à vapeur, mais vous n'avez pas encore tout vu. L'iode a aussi le pouvoir de désublimer. Quand on refroidit à nouveau la salle, toute la vapeur cristallise aussitôt. Des millions de petits cristaux se forment sur les surfaces et même dans l'air ambiant, enfermant tous les microbes qui, ainsi emprisonnés, tombent à terre. La chimie a fait le plus gros du travail et c'est à présent au tour de l'homme de passer un coup de balai. Après avoir franchi plusieurs sas de désinfection et revêtu une combinaison stérile. Quand nous nous crémons les mains, nous utilisons plus ou moins la même méthode. Nous enfermons les microbes dans une couche de graisse dont ils ne peuvent s'échapper. En nous lavant les mains, nous éliminons cette couche et, avec elle, les bactéries qu'elle renferme. Comme notre peau produit naturellement une enveloppe de graisse, il suffit souvent pour la nettoyer d'utiliser de l'eau sans savon. Le film graisseux n'est alors pas complètement détruit et peut reprendre une activité normale après le lavage. Se laver trop souvent n'a aucun sens, qu'il s'agisse des mains ou du reste du corps. En éliminant trop souvent le film graisseux protecteur, nous exposons notre peau sans défense à toutes sortes d'agressions extérieures. Et quand des bactéries puantes s'installent, notre transpiration sent encore plus mauvais. Un cercle infernal. Méthode récente. Une équipe de Gand, en Belgique, travaille actuellement sur une toute nouvelle méthode. Pour lutter contre les odeurs de transpiration, les chercheurs utilisent des bactéries. Ils désinfectent une aisselle, l'enduisent de bactéries sans odeur et regardent l'heure. Au bout de quelques minutes, la personne test peut se rhabiller et rentrer chez elle. Les participants sont ensuite régulièrement conviés à des visites de contrôle, lors desquelles des experts leur reniflent très scientifiquement les dessous de bras. Les premiers résultats sont encourageants. Chez de nombreux participants, la présence de bactéries sans odeur est à même de repousser les bactéries puantes. C'est aussi la méthode actuellement utilisée à Düren, en Rhénanie du Nord-Westphalie, Allemagne, pour lutter contre les mauvaises odeurs dans les toilettes publiques. Une entreprise a mis au point un cocktail bactérien qu'on peut utiliser comme un produit nettoyant. En se développant, les bactéries du cocktail inodore font reculer celles qui cocottent du bec. L'idée de faire nettoyer les sanitaires aux bactéries est géniale. Mais malheureusement, l'entreprise ne dévoile pas la composition de son produit, de sorte qu'il est difficile de l'évaluer d'un point de vue scientifique. En tout cas, la ville de Düren semble très satisfaite de cette expérience. Ces nouveaux concepts bactériens illustrent bien ce que nous avons vu plus haut. La propreté ne consiste pas à exterminer toutes les bactéries. La propreté, c'est un équilibre sain entre une quantité suffisante de bonnes bactéries et une petite dose de mauvaises bactéries. C'est se protéger intelligemment des vrais dangers et parfois encourager de manière ciblée ce qui nous est bénéfique. Une fois qu'on a intégré ce concept de propreté, on peut très certainement applaudir de vieille sagesse, comme cette phrase de l'écrivain américain Sue Ellen Hoy. Du point de vue d'une femme américaine de la classe moyenne ou d'un voyageur expérimenté, qui juge en connaissance de cause, il est certainement préférable d'être propre que sale. Les antibiotiques. Les antibiotiques n'ont pas leur pareil pour tuer les agents pathogènes. Et leur famille, et leurs amis, et les amis de leurs amis, et les connaissances de leurs connaissances. C'est ce qui fait d'eux l'une des meilleures armes contre les bactéries dangereuses et l'une des armes les plus dangereuses contre les meilleures bactéries. Maintenant, posons cette question cruciale. Qui produit le plus d'antibiotiques? Réponse, les bactéries. Vous dites? Les antibiotiques, ce sont les toxines avec lesquelles les champignons et les bactéries ennemies se combattent les uns les autres. Depuis cette découverte, les entreprises pharmaceutiques pratiquent l'élevage intensif de bactéries. Dans des cuves de liquide, avec des contenances pouvant aller jusqu'à 100 000 litres, les bactéries croissent et se multiplient à une échelle telle que les chiffres donnent le tournis. Elles s'occupent de produire les antibiotiques et nous nous chargeons de les nettoyer et d'en faire des comprimés. C'est un produit qui marche bien, surtout aux États-Unis. Pour une étude concernant les effets des antibiotiques sur la flore intestinale, les chercheurs se sont mis en quête de participants n'ayant pas pris d'antibiotiques au cours des 2 années précédentes. Passant au peigne fin toute la circonscription de San Francisco, ainsi que les communes voisines, ils en ont trouvé 2. En Allemagne, une personne sur 4 suit un traitement antibiotique en moyenne une fois par an. Et la France n'est pas en reste, avec 157 millions de boîtes d'antibiotiques vendues en 2009. La raison la plus souvent invoquée pour justifier une prise d'antibiotiques est un rhume. À ces mots, n'importe quel microbiologiste a les cheveux qui se dressent sur la tête. Car ce qui déclenche le plus couramment un rhume, ce ne sont pas des bactéries, mais des virus. Les antibiotiques ont 3 principes de fonctionnement. Ils transforment les bactéries en passoires pleines de trous, ils empoisonnent les bactéries et ils rendent les bactéries stériles. Vous avez entendu le mot virus? Non, tout simplement parce que les virus n'entrent pas dans les compétences de ces médicaments. En un mot, commençant, les antibiotiques sont inefficaces contre la plupart des rhumes. Si on se sent mieux après, ça n'est dû qu'à l'effet placebo ou à notre système immunitaire qui travaille déjà d'arrache-pied. Le problème, c'est qu'en prenant des antibiotiques de manière inconsidérée, on tue aussi un grand nombre de bactéries utiles. Résultat, on se fait plus de mal que de bien. Pour tirer les choses au clair, quand on se retrouve avec une maladie infectieuse mal identifiée, on peut demander au médecin de faire un dosage de la procalcitonine. C'est un biomarqueur qui permet de mettre en évidence l'origine bactérienne, ou au contraire virale, du rhume. En France, le test est remboursé par la Sécurité sociale. Cela vaut le coup d'y réfléchir, surtout quand le patient est un enfant. Si le recours aux antibiotiques est justifié, alors il ne faut pas s'en priver. Chez un patient atteint d'une pneumonie grave, chez un enfant qui lutte contre une infection particulièrement vicieuse et qu'on veut protéger d'éventuelles séquelles, les inconvénients seront certainement contrebalancés par les avantages. Un petit comprimé peut sauver une vie. Les antibiotiques veillent à ce que les bactéries ne se multiplient pas. Le système immunitaire tue tous les autres agents pathogènes restants et nous retrouvons vite la forme. Évidemment, il y a un prix à payer, mais dans l'ensemble, c'est un échange de bons procédés. L'effet secondaire le plus courant, c'est la courante. Si votre dernière prise d'antibiotiques ne s'est pas soldée par une bonne diarrhée, vous aurez cependant peut-être remarqué qu'au petit matin, les portions évacuées dans les toilettes tenaient du menu XXL. N'y allons pas par quatre chemins. Ce que vous avez là, c'est une bonne grosse portion de bactéries intestinales mortes. Une fois avalé, le comprimé antibiotique ne monte pas jusqu'à notre nez bouché. Il dégringole dans l'estomac et de là glisse vers l'intestin. Avant qu'il ne parvienne jusque dans le sang, puis jusqu'au nez, entre autres, les habitants de la planète microbienne vont d'abord être pourfendus, empoisonnés et stérilisés. C'est une bataille sans merci, dont on peut admirer le résultat au fond de la cuvette. Les antibiotiques peuvent modifier profondément notre flore intestinale. Ils limitent la diversité microbienne et peuvent même influer sur les compétences de nos bactéries. Par exemple, quand il s'agit de déterminer la quantité de cholestérol qui sera absorbée, les vitamines qui seront fabriquées, comme la vitamine H, sympa pour la peau, ou le type de nourriture qui sera valorisée. Dans la catégorie « modifications notables de la flore intestinale », les antibiotiques métronidazole et gentamicine décrochent la première place, ainsi que l'ont mise en évidence de premières études réalisées à Harvard et New York. L'utilisation des antibiotiques demande la plus grande prudence chez les jeunes enfants et les personnes âgées. En temps normal déjà, leur flore intestinale est beaucoup moins stable et, après le traitement, elle se remet bien plus difficilement. Des expériences menées en Suède ont montré que chez les enfants, de profondes modifications de la flore intestinale étaient encore décelables 2 mois après le traitement antibiotique. Elles présentaient plus de bactéries potentiellement mauvaises et moins de bonnes bactéries comme les bifidobactéries ou les lactobacilles. Les antibiotiques utilisés étaient l'ampicilline et la gentamicine. La population testée ne comptait que 9 enfants, ce qui ne donne à l'étude qu'une faible portée. À l'heure actuelle, il s'agit cependant de la seule étude de ce type. Mettons donc ces résultats dans un coin de notre tête. L'avenir nous en dira plus. Une autre étude plus récente, portant sur des retraités d'Irlande, a mis en évidence une nette bipartition. Certains des intestins se remettaient très bien de l'antibiothérapie. D'autres en conservaient des séquelles durables. Les raisons de ce phénomène sont encore inconnues. Comme en psychologie, la capacité d'un intestin à rebondir et à retrouver un équilibre stable après des événements traumatiques est appelée résilience. Aujourd'hui encore, les recherches sur les effets à long terme des antibiotiques se comptent sur les doigts d'une main. Et pourtant, nous les utilisons depuis plus de 50 ans. En cause, la technique. Les appareils nécessaires pour mener de telles études n'ont que quelques années. Le seul effet que nous soyons parvenus à prouver scientifiquement à ce jour est le phénomène de résistance. La résilience, on l'a dit, c'est plutôt une bonne chose. La résistance, plutôt pas. Voyons cela plus en détail. 2 ans après une prise d'antibiotiques, il y a encore dans l'intestin de méchantes bactéries qui, le soir, racontent leur guerre à leurs arrière, arrière, arrière petits-enfants avant de les mettre au lit. Elles ont fait front aux antibiotiques et ont survécu. Et il y a une bonne raison à cela. À l'époque, elles ont développé des techniques de résistance, par exemple en installant de petites pompes dans leurs parois cellulaires. Comme des pompiers pompant l'eau d'une cave inondée, elles s'en sont servies pour évacuer l'antibiotique. D'autres bactéries se déguisent. Les antibiotiques ne reconnaissent plus leurs parois et s'abstiennent alors de les massacrer. D'autres encore utilisent leurs facultés de clivage et fabriquent des outils avec lesquels elles vont pouvoir décomposer les antibiotiques. Le souci, c'est que les antibiotiques tuent rarement toutes les bactéries. Ils tuent certaines communautés en fonction de la toxine qu'ils utilisent. Et il y a toujours des bactéries qui survivent ou se transforment en combattants aguerris. Le jour où l'on tombe malade, ce sont ces super guerriers qui vont poser problème. Plus ils ont développé de résistance, et plus il nous sera difficile de prendre le contrôle sur eux avec des antibiotiques. Chaque année en Europe, des milliers de personnes meurent à cause de bactéries devenues si résistantes qu'aucun médicament ne peut plus les combattre. Un affaiblissement du système immunitaire après une opération ou un surnombre de germes résistants après une antibiothérapie de longue durée constituent des situations de danger. Aujourd'hui, on ne développe presque plus de nouveaux médicaments, tout simplement parce que cette activité n'est pas assez lucrative pour les laboratoires pharmaceutiques. Si vous êtes de ceux qui préfèrent rester à distance des guerres intestines opposant les bactéries aux antibiotiques, voici 4 conseils. Conseil numéro 1. Les antibiotiques, ça ne se prend pas à la légère. Mais si on vous en prescrit, vous devez suivre le traitement pendant la durée indiquée, c'est-à-dire assez longtemps pour que les guerriers résistants les moins doués abandonnent et soient éliminés. À la fin du traitement, il ne restera plus que les bactéries qui auraient de toute façon survécu. Mais au moins, on aura tordu le cou au reste. Conseil numéro 2. De la viande bio. La résistance aux antibiotiques, ou antibiorésistance, varie d'un pays à l'autre. Or, les chiffres laissent souvent apparaître une relation nette avec la quantité d'antibiotiques utilisés dans l'élevage industriel. Dans des pays comme l'Inde ou l'Espagne, l'administration vétérinaire des antibiotiques n'est pratiquement pas contrôlée. Résultat, les éleveurs fournissent aux abattoirs veaux, vaches et cochons, et en même temps, de gigantesques zoos de bactéries résistantes installées dans les intestins des animaux. Par rapport à d'autres régions, c'est aussi dans ces pays qu'on recense un nombre bien plus grand d'infections impossibles à traiter chez l'homme. En France, il y a des règles, mais il faut avouer qu'elles sont très floues. Et les dispositions restrictives sont parfois contournées par des vétérinaires ou des pharmaciens pratiquant un commerce quasi illégal d'antibiotiques ou par des éleveurs recourant à l'automédication. L'Union européenne n'a interdit qu'en 2006 les antibiotiques à effet de croissance dans les aliments pour animaux. Ce qu'on appelle l'effet de croissance, ici, c'est en d'autres termes la capacité d'un animal enfermé dans un local sale et surpeuplé à ne pas mourir d'infection. Le cahier des charges de l'élevage bio limite quant à lui plus strictement la quantité d'antibiotiques administrés aux animaux. En cas de dépassement, la viande ne pourra plus être vendue comme provenant de l'agriculture biologique. Elle sera vendue comme viande normale. Si possible, mieux vaut donc dépenser quelques euros de plus. Cela nous permet de lutter contre les zoos antibiorésistants et d'œuvrer pour la paix des intestins. Et si on ne le remarque pas tout de suite, une chose est sûre, on investit dans l'avenir. Conseil numéro 3. Bien laver les fruits et les légumes. Là encore, les fermes d'élevage ne sont pas loin. Car on utilise volontiers le fumier comme engrais dans les champs, où poussent nos produits maraîchers. En Europe, aucun test obligatoire ne vise à détecter les résidus d'antibiotiques sur les fruits et les légumes, et encore moins la présence de bactéries intestinales antibiorésistantes. Un contrôle du respect de certaines valeurs limites est en revanche prévu pour le lait, les œufs et la viande. Au rayon primeur, mieux vaut donc laver trop que trop peu. de faibles quantités d'antibiotiques suffisent déjà à favoriser la résistance des bactéries. Conseil numéro 4. En vacances, on ouvre les yeux. Un vacancier sur 4 rapporte de son voyage des germes ultra-résistants. La plupart des bactéries disparaissent au bout de quelques mois, mais d'autres se tiennent plus longtemps en embuscade dans nos intestins. La prudence est notamment de mise dans les pays bactériellement problématiques, comme l'Inde. En Asie et au Moyen-Orient, on se lave les mains fréquemment et on nettoie les fruits et les légumes avec soin, éventuellement avec de l'eau qu'on aura fait bouillir auparavant. Prudence aussi dans les pays d'Europe du Sud. Souvenez-vous de l'adage « faites-les cuire, pelez-les ou oubliez-les ». Pas seulement pour échapper à la diarrhée, mais aussi pour éviter de rapporter chez vous, parmi d'autres babioles inutiles, des bactéries résistantes dont tout le monde préférerait se passer. Quelles alternatives aux antibiotiques ? Les plantes fabriquent des antibiotiques qui fonctionnent depuis des siècles sans générer de résistance. Rappelons que les champignons, comme ceux utilisés pour fabriquer la pénicilline, n'entrent pas dans la même catégorie que les plantes, mais dans celle des opisthocontes, comme les êtres humains. Une plante qui penche de la tête ou qui a des feuilles mitées va lancer aux endroits touchés la fabrication d'une substance contre les microbes et éviter ainsi de se changer en un délicieux repas pour les bactéries qui l'entourent. Au tout premier signe d'un rhume, d'une infection urinaire ou d'une inflammation de la bouche ou de la gorge, on peut acheter en pharmacie des antibiotiques végétaux sous forme concentrée. Il existe par exemple des produits à base